Je suggère, comme on est à assez petit groupe aujourd'hui, qu'on peut avoir pas mal de discussions et de dialogues au niveau des questions, des choses qui sont là. Parce que comme c'est un texte qui est, moi je dirais, complexe, ça aidera de pouvoir échanger et de faire un petit travail ensemble sur le texte. C'est un texte qui est riche, mais qui a pas mal de choses dedans qui sont, que peut-être nous ne connaissons pas très bien. Donc, on sera aux Hébreux chapitre 12 et c'est là où nous allons commencer les versets 18 et suivants. Nous nous souvenons que dans notre texte, nous avons les chrétiens qui luttent contre le découragement. Donc, il y a ces personnes qui n'ont pas vu de leurs propres yeux Jésus, ils ont été convertis et maintenant ils passent à travers une période de persécution. Vous vous souvenez aussi que la persécution ne consistait pas à devenir des martyrs, mais on leur arrachait les biens, peut-être qu'ils étaient même exclus de leur maison, et donc il y avait une pression qui était là, et les gens commencent à se poser la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et donc l'écrivain continue à dire, bon, le Christ est supérieur à toute autre possibilité, et même au-delà, au-dessus de la possibilité la plus importante, qui était le judaïsme à l'époque, qui venait de Dieu, et qui effectivement était l'ombre de la réalité allait venir, qui était Jésus-Christ. Et donc nous voyons que son conseil au chapitre 12, le verset 1, le premier, c'est de courir la course les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur, le pionnier de notre foi, et qui a perfectionné tout cela pour nous. Il est passé par là, et donc il nous invite à aller avec lui. Et Jésus, quand il souffrait, il a méprisé la honte, l'humilité de cela, donc il a exclu totalement, et la honte de la croix, il est resté fidèle. Alors la foi, donc, est inséparable de l'endurance. Et cela nous semble injuste. Il me semble que si quelqu'un vit, c'est pas 80, disons 80 ans, si quelqu'un vit 80 ans, que s'il était fidèle 65 ans de sa vie, ça devrait compter pour quelque chose. Mais nous voyons que la foi qui est la vraie foi, c'est aussi l'endurance, persévérance pour aller jusqu'au bout des choses. De mourir dans la foi est une bénédiction, même si on n'est pas beaucoup qui veulent mourir, en tout cas pas maintenant, mais c'est une bénédiction d'aller jusqu'au bout. Et donc la persévérance est importante. On va pas regarder une vie, dire 80 ans, bon, 65 ans ça allait, puis 15 ans il avait, à la fin on a vécu. Non, c'est aller jusqu'au bout avec cela. Et le chrétien, donc, devait avoir cela en tête. Il devait avoir en tête, prenez mes biens, prenez mes possessions, jetez-moi en prison, mais vous ne pouvez pas prendre de moi ma foi en Christ Jésus. Prenez tout, mais ça, vous ne pouvez pas prendre. Vous pouvez toucher les autres choses, mais ça, vous ne pouvez pas toucher. Ça, vous n'avez pas le droit de toucher, parce que ça appartient à moi jusqu'à la fin. Et l'écrivain de cette lettre va dire, en fait, que la souffrance fait partie de notre réponse à Dieu, c'est fait partie de la foi que nous avons en Jésus, et parfois même la souffrance va servir de correction dans le Seigneur pour vraiment se poser la question, qu'est-ce que Dieu désire de moi à travers cette souffrance? Comment est-ce que je peux le voir à l'œuvre? Et est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je dois changer? Mais avant de peut-être s'attaquer à notre texte, j'aimerais que vous mettiez ceci en tête. Donc Israël quitte l'Égypte sous l'esclavage, c'est la nuit de la Pâque, les agneaux ont été tués, on a mangé le repas debout, bâton à la main, sandales sur les pieds pour repartir. On part, on arrive à la mer. Les armées du Pharaon viennent, la mer s'ouvre, on traverse la mer et bien sûr les soldats, des chariots du Pharaon sont écrasés, sont détruits à travers les eaux qui tombent sur eux. La célébration, on continue à errer et on arrive à un endroit qui s'appelle Sinaï, ou Horeb, c'est un autre nom, et ça c'est la montagne de Dieu. Bon, c'est une des montagnes de Dieu. On verra qu'il y en a d'autres aussi. Mais cette montagne de Dieu, le peuple d'Israël, va faire le camping, disons, en face de cela, comme on est demandé. Et Moïse, donc, va finalement, après un moment, monter sur la montagne. Mais il faut savoir que quand nous lisons l'Ancien Testament, et ce qui se passe, ils arrivent à la montagne et c'est pas juste, ah, c'est sympa cette montagne. Okay? Nous apprenons qu'il y avait continuellement des tonnerres, spécialement depuis le troisième jour qu'ils étaient là. Il y avait des éclairs et même du feu qui descendait sur la montagne. Non, pas qui quittait la montagne comme un volcan, mais qui descendait cela. Et Dieu va faire sa présence, sa manifestation à travers ce feu. Il y aura le son du cor, donc qui va retentir. Et ça, c'est toujours l'appel, soit à la guerre, l'appel à l'assemblement. Et il y aura une fumée épaisse, avec des tremblements de terre aussi qui va être. Et donc le peuple de Dieu va regarder cela. Et c'est un peu comme un film de Spielberg, mais c'est pas un film. Ça se passe vraiment. Il y a feu, il y a tremblement de terre, il y a tempête, il y a bruit, et il y a même les voix. On entend beaucoup de voix qui sont là, qui disent des choses, mais on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Et Israël est en face de cette montagne qui est en train de bouger. C'est une montagne qui bouge. Moi, j'ai été à la montagne qui bouge. Et c'est pas sympa. Quand on voit des pierres descendre aussi grand qu'un camion, alors on veut être sûr qu'on n'est pas tout près de cela. Et c'est effectivement ce que le peuple a fait. Le peuple a tremblé devant Sinaï. Et a dit, nous ne voulons pas écouter Dieu, nous, directement, mais nous voulons avoir un médiateur entre nous et Dieu de sur cette montagne pour nous donner le message. Okay? Ils ont dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. Okay? Ça, c'est Sinaï. C'est pas sympathique. Okay? Ce n'est pas un endroit pour les vacances, c'était un endroit de rencontre avec un Dieu qui était donc un Dieu qui est terrible. Et là, vous retrouvez tout cela dans l'Ancien Testament, dans Exode 19 et puis Exode chapitre 20. Alors, avec tout cela, vous avez ces scènes en tête, vous avez cela, tonnerre, feu, fumée, tremblement de terre, les bruits des toutes ces voix ensemble. Vous avez tout cela en tête? Ok. Allons-y lire notre texte qui est Hébreux chapitre 12, le verset 18. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés, en effet, d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Car ils, c'est-à-dire les Israélites, ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse, okay? Que Moïse lui-même, donc lui qui a voulu voir la face de Dieu, que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais au contraire, vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux de Dieu, juge de tous. Les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Bon, on va s'arrêter là, parce que ça devient un tout petit peu compliqué. Il y a beaucoup de mots dans ça, mais vous voyez ce qui est en train de se passer. Il est en train donc de parler de deux montagnes. Notre première montagne, on a déjà décrit, c'est la montagne de Sinaï. Okay? C'est la montagne de Sinaï. Et puis la deuxième montagne, c'est laquelle ici? C'est Sion, d'accord? Et quand on parle de Sion, on parle de Mont Sion, on est en train de parler de ce lieu où David a voulu construire le temple et il a construit son palais et qui est devenu donc le siège de pouvoir et aussi de la vie religieuse d'Israël. Mais Sion, ça, c'est vraiment cette idée là d'être dans la présence de Dieu, dans une relation que Dieu désire. Bon, quand vous regardez Sinaï, donc je crois que ça vaut la peine quand même de voir, Sinaï, c'est palpable. Okay? On peut le toucher, mais on ne devait pas le toucher, c'est-à-dire c'est physique, mais c'est palpable. Par contre, l'interdiction de ne pas s'approcher, d'accord? Et donc, on pourrait dire c'est une montagne donc interdite, en tout cas pendant le temps que Israël est là. Si vous voulez y aller maintenant, il n'y a pas de problème, sauf avec tous les dangers que vous pouvez en courir. Okay? Il décrit la montagne dans notre texte au verset 18. Comment décrit-il donc l'écrivain la montagne de Sinaï? Juste, qu'est-ce qu'il dit dans notre texte?
Embrassé par le feu.
D'accord, donc il y a vraiment embrasé par le feu, quoi d'autre? Il y a deux fois qu'il parle d'une autre chose que j'ai pas encore mentionnée. Ténèbres. Okay. Et ça, c'est, quand on parle de ces ténèbres, c'est cette idée qu'on ne voit rien, ça suce la lumière qui est là, c'est une ténèbre terrible, hein. C'est une obscurité. Quoi d'autre est-ce que vous voyez? Ok, donc il y a l'idée d'ouragan ou de tempête. Ok, quoi d'autre? Ok, donc il y a toutes ces paroles qui sont dites à quel point que Israël va se retirer et dire on veut plus entendre. Okay? Et puis il y a trompette. Ouais. Donc il y a trompette et tempête. Tempête. Donc on a les deux. Et notons bien, il y a une demande de médiateur. Parce que on veut prendre de la distance avec cette montagne. On ne veut pas être plus proche. Et Dieu l'avait dit. Donc ça, c'est que nous remarquons. Mais Sion, c'est autre chose. Est-ce que vous avez vu des choses qui sont racontées pour Sion?
Approché.
OK. Donc, il y a cette idée, donc, de pouvoir venir à cette montagne et d'être en communion avec.
C'est la Jérusalem céleste.
Absolument. Donc, c'est le Jérusalem céleste dans le sens que maintenant c'est spirituel, c'est un rassemblement du peuple de Dieu qui est spirituel. Quoi d'autre, vous remarquez? Et il dit église de quoi? Oh, l'assemblée des premiers-nés, n'est-ce pas? Assemblée des premiers-nés. Okay. Et ce qui est intéressant avec cela, c'est l'idée des premiers-nés, c'est l'idée de ceux qui reçoivent un double héritage. Okay? Et ce sont eux qui non seulement vont recevoir un héritage de leur père, mais un double héritage. Et là, nous parlons de chaque chrétien a une relation avec Dieu qui est un héritage important que nous avons, qui est la vie éternelle. Et donc, effectivement, c'est l'Église des premiers-nés est inscrite dans les cieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher à cet héritage ni l'enlever. Quand Jésus a dit, donc faites votre trésor dans les cieux, ça veut dire que ce qui est de ce monde ne peut pas le toucher, donc c'est une valeur sûre. Donc, Martine, ça c'est toi. Okay. Et c'est Bolek, et c'est chacun de nous en Christ Jésus. Okay. Que dit-il d'autre? Est-ce que vous voyez d'autres choses qu'il dit sur cette. Sur cette montagne et qui est la cité de Dieu aussi. Bon, je vais le dire. Oui. Alors là, c'est assez intéressant. C'est une célébration des milliers ou des myriades d'anges. Et là, ce que nous voyons, donc, ce sont des anges de Dieu, okay? Mais c'est l'idée que de tout ce qu'il y a de célébrer la présence et le festin de Dieu. Et les anges, donc, vont participer à cela. Il y aura Abraham, Jacob, Isaac, tous les autres aussi, mais les chrétiens aussi qui vont participer à cela. Et donc, c'est l'idée de se rassembler ça, là. Et c'est important à savoir parce que, notons bien, c'est une Jérusalem céleste, Sion. Et le peuple d'Israël était appelé trois fois par année d'aller passer une semaine à Jérusalem. C'était une obligation dans la loi d'aller célébrer sur la montagne. Et donc, l'idée ici que nous avons, c'est qu'en Christ Jésus, on a une célébration permanente, même en communion avec les anges. C'est quand même magnifique. Le plus qu'on connaît l'histoire d'Israël, le plus comprendre ce qui est en train d'être dit ici. Bon, peut-être je peux juste souligner une ou deux autres choses. Donc, nous voyons que c'est le cité, je dis, de Dieu, du Dieu vivant. Et quand on utilise le mot cité, ça nous fait penser à David aussi, qui a construit donc le cité de David. L'idée où Dieu est souverain et qu'il va délivrer les gens de leurs ennemis. Et donc, c'est un endroit où Dieu nous délivre de nos ennemis. On a parlé de la célébration, comme la célébration à Sinaï qui avait lieu autour d'une idole. Okay? À Jérusalem, ça avait lieu autour du temple de Dieu, c'est-à-dire une communion avec Dieu. Et pour nous, c'est à travers Jésus-Christ que nous entrons dans la célébration avec Dieu. Bon, réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est cette idée de double héritage. Dans un lieu sûr est inscrit notre héritage, un héritage qui ne sera jamais perdu. Et donc, même si les biens sont pris, le vrai héritage reste. Notons bien, ils disent « approcher de Dieu ». On est invité à venir sur cette montagne qui est Sion. On n'était pas invité de venir sur cette montagne qui est Sinaï. Et malgré toute la gloire de la loi, c'est rien de comparable à ce que nous avons avec la cité céleste en Jésus-Christ. Et donc, nous nous approchons de cela. Il dit « Assemblée des esprits des justes, l'assemblée des esprits des justes parvenue à la perfection. » Et je crois que ceci est important aussi de voir que ce que nous avons, c'est que tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu à travers tous les âges font partie donc de cette Jérusalem céleste. C'est un corps de Christ, c'est une Sion qui touche tous les siècles de tous ceux qui sont fidèles à Dieu. Et notons bien, il dit que tout cela est là parce que nous avons accès par le sang de Jésus. Vous voyez, c'est le sang de Jésus qui rend cela, qui est donc meilleur que le sang que d'Abel. Et pourquoi cela? Parce que quand Abel, son sang était donné, ce qui était donc dit, c'était un sang de vengeance. Okay? C'était un sang qui crie vengeance. Pendant que le sang de Christ est versé, et qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est un cri de grâce, c'est la justice de Dieu qui est manifestée. Et donc, regardons bien la différence entre les deux. Et évidemment, vous avez la possibilité de choisir entre nos deux montagnes. Okay. Vous choisissez lequel? Laquelle? Okay. Bon, c'est assez facile. Beaucoup plus la fête, la communion avec Dieu, la présence de tous les fidèles, c'est cela que nous avons. Et donc, regardez ce qu'il va dire au verset 25 et tout. Donc, regardez le verset 25 de nouveau des Hébreux chapitre 12. Donc, prenez garde. Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle, c'est-à-dire l'écrivain. Hein? Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous échapper nous-mêmes si nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Si sa voix ébranla alors la terre. Et maintenant, il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart. Étant que créés afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume ébranlé et inébranlable, ayant de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bon, juste rapidement, c'est très riche, mais il dit, donc prenez garde. Parce que il y a une voix qui parle sur la terre, okay? Et là, je crois qu'il est en train de parler de Moïse qui appelait les gens, etc. Mais il y a une autre voix qui vient du ciel, et cette voix qui vient du ciel, c'est la voix de Dieu en Christ Jésus qui appelle les gens à vivre avec Dieu. Et donc, si eux, ils étaient obligés d'écouter à Sinaï cela, combien plus nous sommes obligés d'écouter ce que Dieu est en train de dire. Il nous avertit, okay? Et il dit, si autrefois la terre a été secouée à Sinaï, qu'il faut savoir qu'un jour, ciel et terre seront secoués. C'est-à-dire, tout ce qui est physique va entrer dans une rédemption, dans un jugement aussi, et ce qui va durer, donc, c'est la vie que vous avez vécue en Christ Jésus. C'est la foi jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'il dit dans notre texte. Car nous avons un royaume qui est inébranlable. Bon, quel soulagement à des chrétiens qui venaient de perdre tout leur bien. Parce que peut-être en leur tête, ils diraient, est-ce que Dieu il va nous rendre tout ce que nous avons perdu? Par exemple, j'ai perdu, je sais pas, un armoire. Est-ce qu'il va me donner un autre armoire? J'ai perdu mes économies que j'avais sous le lit, est-ce qu'il va me rendre cela? Et la réponse est oui. Mais ça ne sera pas nécessairement d'une manière physique, mais au niveau de la vie éternelle qu'il offre à la fin de toutes choses. Et donc, il dit, c'est quelque chose qu'il fait pour nous, parce qu'il y a un jugement qui vient. Et quand on souffre de savoir qu'il y a un jugement qui vient contre ceux qui vous font souffrir. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. De savoir que justice sera rendue est une bonne nouvelle. Et dans notre texte, donc, il dit que la vraie réponse à donner à Dieu, à ce moment-ci, c'est l'adoration. Et peut-être ça nous donne quelques clés importantes pour l'adoration. Quand on comprend qu'on a un héritage qui ne peut pas être pris, nous avons quelque chose d'inébranlable qui ne peut pas être secoué. Nous avons une foi qui ira jusqu'à la fin. Le désir de l'être humain, c'est de louer Dieu. Okay? C'est de louer Dieu. Et le plus que je suis conscient de mon salut, le plus que j'aurai envie de louer Dieu. Et notons bien comme il dit louer Dieu avec reconnaissance, ça c'est au verset 28, avec piété et finalement avec crainte. Reconnaissance avec piété et avec crainte. Le début de l'adoration est un cœur reconnaissant. Si nous ne savons pas, ou si nous ne sommes pas conscients de la grâce de Dieu en Christ Jésus, nous aurons de la peine d'être reconnaissants. Nous aurons de la peine de chanter « Ton amour, je le vois, c'est montré sur la croix ». Non, nous aurons de la peine de voir ça parce que notre cœur ne sera pas reconnaissant. La piété, c'est l'idée de s'attacher à Dieu. Le désir que nous avons, c'est de nous approcher de Dieu et de sa sainte montagne. C'est l'idée que nous avons de vraiment prier, de chercher, d'étudier, de méditer parce que nous cherchons à tout prix un attachement à Dieu. Oui, nous l'avons en Jésus, mais nous continuons à travailler là-dessus. Et puis, finalement, il dit avec crainte. Avec crainte. C'est avec ce respect saint. Car Dieu est grand. Dieu est juge. Dieu est le Dieu de Sinaï. Et il est le Dieu aussi de la Jérusalem céleste. Mais il est aussi un feu dévorant. Bon, à vous maintenant. Feu dévorant. Vous vous souvenez des fois que Dieu s'est présenté comme un feu dans la Bible? Est-ce que vous vous souvenez? le buisson ardent. Ça va très bien dans notre histoire de Moïse, n'est-ce pas? Et quelle était la réaction de Moïse quand il est venu à ce buisson? Oui, Dieu lui dit, enlève tes chaussures, qui est un signe de respect. C'est une terre donc sainte sur laquelle tu es. Vous vous souvenez d'autres fois où il y avait un feu?
Jean-Baptiste dit qu'il nous baptisera, que Jésus nous baptisera de feu.
Ok, oui. Je pensais de vraies manifestations de Dieu comme un feu dévorant.
Il a guidé le peuple avec.
Oui. Oui, il y avait une colonne de feu, okay, qui était là. Et notons bien que cette colonne de feu a servi aussi parfois comme protecteur du peuple entre les ennemis et entre Israël. Et donc, c'était quand même impressionnant, assez pour détruire. Oui, tu en avais un aussi?
Non, c'était
un. OK. Il y a d'autres histoires où Dieu juge à travers un feu qui descend du ciel. Il y a deux fils de prêtres qui offrent un feu qui n'était pas autorisé. Il y a un feu qui vient du ciel. Il y a un prophète qui s'appelle
Élie,
qui a eu 450 prophètes de Baal, et il y a un feu qui descend, et puis un feu qui prend tout ça et donc rend jugement. Et donc notre Dieu est un feu dévorant. Et c'est pour cela donc que nous avons la reconnaissance, un désir de nous attacher à lui, mais nous venons à lui avec crainte. Nous venons à lui avec crainte. Et ces trois choses, donc, nous aident à adorer Dieu. Je crois que ça serait bien pour nous de plus en plus de développer cela dans notre vie. La reconnaissance à travers les psaumes, les chants, à travers nos prières, à travers nos témoignages, d'avoir cela, parce que c'est vrai que ces gens, ils avaient beaucoup de choses dans notre épître, beaucoup de choses pour lesquelles ils pouvaient se plaindre, mais ils sont appelés à la reconnaissance, et nous aussi. Et deuxième chose, cette piété qui est là, de vraiment connaître Dieu. Nous venons ensemble pour partager et être encouragés et pour encourager, mais nous venons aussi parce que nous avons envie de connaître Dieu. Nous voulons marcher avec lui. Si ce soit chant, ou parole, ou pain, ou vin, ou salutations, toutes ces choses pour que nous venions de plus en plus près de Dieu. Et puis finalement, ce respect, que maintenant nous allons donc louer notre Dieu et nous sommes conscients de ce que nous faisons. Et donc, nous essayons de tout notre cœur de nous focaliser sur Dieu. Je ne parle pas de se focaliser sur la prédication, mais sur Dieu lui-même. Okay? À travers tout ce que nous faisons pour qu'il soit loué. Nous savons très bien qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher de louer Dieu. Jésus a dit, vous enseignez les enseignements des hommes plutôt que l'enseignement de Dieu, et donc votre adoration est vaine. Nous savons que Paul écrit à l'Église, il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, qui est votre adoration. Nous savons que c'est avec confiance dans l'œuvre de Dieu que nous pouvons venir. Philippiens 3:3 dit, c'est notre culte, c'est par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Christ Jésus et en qui nous mettons notre confiance dans la chair. C'est grâce à lui que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et c'est aussi à travers le pardon que nous avons reçu, en sachant que Dieu nous a purifiés en Christ Jésus de nos œuvres mortes. Et tout cela donc fait partie de notre adoration. Alors, vous avez bien fait de suivre cela, mais je crois que c'est important parce que ceci, quand nous regardons Sinaï de l'Ancien Testament, nous voyons un Dieu puissant et terrible qui dirige son peuple, okay? Et qui va faire le nécessaire pour que le peuple arrive à la terre promise. Et le peuple n'a pas écouté. Et quel était le résultat? Bon, mort dans le désert. Et quand nous regardons ce que Dieu nous offre en Christ Jésus, c'est-à-dire la montagne de Sion, la communion avec Dieu, une Jérusalem céleste, remplie avec des êtres célestes, des anges qui louent Dieu, avec tous les fidèles de tous les temps qui sont maintenant morts, mais qui seront ressuscités un jour, que nous sommes les premiers-nés de toute la création, et donc avec un double héritage dans la cité de Dieu, qui parle de David, de protection, de présence de Dieu. Et finalement, cette fête, quand nous regardons cela, il dit, et nous aussi, nous devons prêter attention d'aller jusqu'au bout dans ces choses. Donc, il y a un exemple de deux montagnes, Sinaï et Sinon, et Sion, et les conséquences d'un refus. Et donc, il dit, ne refusez pas, allez jusqu'au bout. Et la deuxième chose, c'est d'approcher. Ici, on n'avait pas à Sinaï la possibilité de s'approcher. Mais là, Dieu nous appelle à nous approcher de lui en Christ Jésus. Et il nous avertit et dit que c'est avec reconnaissance et piété et crainte que nous offrons à Dieu notre culte. La nature de notre Dieu, un feu dévorant, mais qui nous invite à venir dans sa présence. Et donc, c'est cela que nous faisons.